Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bienvenue dans cette capsule L'amour vaincra. Je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, prêtre religieux et catholique. Et je vous propose d'abord de parler botanique. Nous allons parler de trois fleurs dans trois religions différentes avant de nous pencher sur l'évangile du jour et de le commenter. Nous commençons avec le lotus. Le lotus symbolise la pureté, l'illumination et la renaissance, notamment dans le bouddhisme. C'est en effet que la fleur de lotus pousse dans des eaux boueuses à la base, mais petit à petit, en fleurissant, le lotus s'élève au-dessus de la boue des marécages, pure et belle. Elle représente l'élévation spirituelle au-dessus des souffrances du monde. Et c'est pour cela que le Bouddha est souvent représenté assis sur une fleur de lotus, lui qui est parvenu à s'élever au-delà de la fange de la boue, de le vice et de l'impureté. C'est une image, le lotus, qui incarne la possibilité pour chacun d'entre nous de s'élever au-dessus des obstacles et de parvenir à un état de paix et de clarté intérieure. Dans la religion bouddhiste, en contemplant un lotus, on est invité à méditer sur le voyage intérieur qui nous amène à dépasser nos difficultés. Deuxième fleur, dans le christianisme, la rose. La rose est souvent associée dans le christianisme à la Vierge Marie et symbolise, elle aussi, la pureté, mais plus particulièrement avec son rouge, l'amour et le sacrifice. Il y a aussi certaines traditions qui représentent une rose blanche, cette fois-ci qui symbolise la pureté. La rose rouge, elle, c'est plutôt la charité, l'amour et le sacrifice. Bon. On retrouve ces roses non seulement chez Marie, mais aussi dans le christianisme, associées au récit des saints et des martyrs, où les roses deviennent la vertu de l'âme qui s'est épanouie et qui, sous le regard divin, s'est mise à fleurir. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, qui était connue sous le nom de Petite Fleur et qui a promis d'envoyer après sa mort des roses depuis le ciel, comme signe de ses prières et de ses bénédictions que Jésus exaucerait pour l'humanité. Alors, il y a une particularité néanmoins pour la Vierge Marie quand on parle d'elle. On dit qu'elle est la rose mystique. Et la rose mystique, ça veut dire que pour la Vierge Marie, c'est une rose qui n'avait pas d'épines. Parce que pour les chrétiens, Marie n'avait pas de péché, il n'y avait en elle rien de rugueux. Et donc, à la beauté de la rose qui exhale son parfum suave d'agréable odeur, Marie ajoute en plus la douceur d'une tige qui, n'ayant pas d'épines, se laisse prendre de manière agréable dans les mains pour la contempler. Troisième fleur, et nous passons au shintoïsme, la fleur des cerisiers. Ou plutôt, Sakura. La fleur des cerisiers, ou Sakura, symbolise la beauté éphémère de la vie. Ces fleurs de cerisiers sont vénérées lors de la fête de Hanami, où, lors de cette fête, les gens contemplent la beauté des fleurs de cerisier et réfléchissent à la nature transitoire de leur vie sur Terre. C'est une tradition religieuse qui met l'accent sur la gratitude pour le moment présent qui est donné, de reconnaissance et d'action de grâce pour la vie qui est peut-être fugace, mais qui est quand même belle. Les Sakura nous rappellent qu'il est important de chérir, d'apprécier et de savourer chaque instant de la vie et de le vivre pleinement malgré l'impermanence. Et la fête du Hanami, qui signifie littéralement « regarder les fleurs », devient alors une pratique culturelle et religieuse enracinée au Japon, où les familles et les amis se rassemblent sous les arbres des cerisiers en fleurs pour partager des repas et apprécier la beauté de la nature. Et nous passons maintenant à l'évangile du jour. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où, de nouveau, la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui car il affirmait « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant auprès de lui, Jésus leur dit cette parabole. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Et alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur. » Or, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors et ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et oui, vous l'avez entendu dans l'évangile du jour, Jésus avait des frères et des sœurs, et peut-être même que cela ne se passait pas si bien que cela entre eux. Mais quoi, Jésus qui avait des frères et des sœurs, alors que l'on n'arrête pas de parler de la Vierge Marie? Marie n'est-elle pas censée avoir eu comme seul et unique enfant Jésus? Alors d'où viennent ses frères et ses sœurs? Est-ce qu'on nous aurait menti? D'autant plus que l'évangile de Matthieu vous donne même les noms. On était dans Marc aujourd'hui, mais l'évangile de Matthieu vous dit qu'il s'appelait l'un Jude, l'autre Simon, ou bien encore Joseph, ou encore Jacques. Ce qui d'ailleurs vous donne, pour l'époque, des prénoms plutôt traditionnels, et il était probable que Jésus soit issu d'une famille plutôt classique et traditionnelle, en tout cas pour les standards juifs de l'époque. Mais revenons à nos moutons, ou si jamais je puis dire, à nos frères et sœurs de Jésus. D'où sortent-ils, ceux-là? Est-ce que l'Église nous aurait menti? Bon, alors, redisons-le déjà, vu que c'est écrit noir sur blanc sur l'Évangile, on ne peut pas dire que l'Église ait caché quoi que ce soit, et pourtant elle continue de dire que les frères et sœurs de Jésus étaient non pas des frères et sœurs de sang, mais ou bien des demi-frères, position orthodoxe, ou bien des cousins, position traditionnelle catholique. Alors, comment le comprendre et comment le justifier autrement que par un recours à l'argument d'autorité et à la tradition? Imaginez que vous ne connaissiez ni la tradition, ni l'Église, ni Saint Jérôme, mais que vous ayez simplement la Bible dans les mains et que vous lisiez ce passage-là. Qu'est-ce qui vous ferait dire que ces frères et sœurs de Jésus ne sont peut-être pas tout de suite directement des vrais frères et des vraies sœurs, mais simplement des demi-frères ou des demi-sœurs? Et je pense qu'il y a plusieurs arguments, ou alors peut-être même pas des arguments, mais plusieurs réalités. Oui, c'est mieux. Plusieurs réalités sociologiques, historiques, médicales à prendre en considération et qui vous expliquent que c'était pas si évident que ce soit des vrais frères et des vraies sœurs. Déjà, de un, Jésus ne parlait pas grec mais araméen et qu'en araméen, le mot « frère et sœur » désigne aussi bien les frères et les sœurs que les cousins, les cousines, les demi-frères, les demi-sœurs. Parce que derrière, réalité sociologique, ce n'étaient pas des familles, ce qu'on appelle des familles nucléaires. Un père, une mère et quelques enfants qui vivent dans un HLM ou dans un appartement. Mais à l'époque de Jésus, si jamais je puis dire, tout ce beau monde vivait ensemble et que les différentes familles étaient installées dans des fermes. Et que les enfants de la tante, de l'oncle, grandissaient, vivaient dans la cour commune, et que forcément, les relations familiales à cette époque-là étaient différentes, et que demi-frères, cousins, ou bien cousines ou tantes, eh bien, même lieu de famille, même lieu de vie, les liens étaient beaucoup plus forts. Ensuite, il y a une autre chose aussi à prendre en considération. Celle-là, on l'oublie souvent, mais c'est la réalité médicale. Les femmes, à l'époque de Jésus, mourait. Enfin, c'était pas une vie facile, être une femme à l'époque de Jésus. Même pas à cause des relations hommes-femmes, même si jamais c'était pas toujours très simple, mais tout simplement parce que, à cause des réalités médicales, les chances de mourir lors d'un accouchement, mais on estime qu'une femme juive sur 7 mourrait lors d'un accouchement. Alors, si jamais je prends tous les prénoms des frères et sœurs de Jésus, on arrive à quasiment 7. 7 frères et sœurs dans une même famille. Eh bien, il était plus probable que Joseph ait eu plusieurs femmes pour avoir 7 enfants que une seule femme qui aurait survécu à 7 accouchements. Alors ça aurait été un miracle. Une femme, 7 enfants, pour les critères médicaux de l'époque. Là, tout le monde aurait crié au miracle ou au moins aurait rendu grâce à Dieu. Ensuite, il y a cette phrase de Jésus qui meurt sur la croix et qui, se retournant vers l'apôtre Saint Jean, dit « Fils, voilà ta mère ». Mais si jamais vous regardez bien, enfin, si Jésus avait des frères et des sœurs, de quel droit il va voir Jean, l'apôtre, pour lui dire « Eh bien, prends soin de ma mère et tu seras pour elle comme son fils ». Enfin, je veux dire, si jamais Jésus avait des frères et des sœurs, il n'allait pas les déposséder de leur mère. Ça vous suggère le comportement d'un fils unique. Bon, c'est quelques exemples, il y en aurait d'autres, mais ça vous explique pourquoi est-ce que... Ah, ce n'est pas parce que l'évangile dit tout de suite que Jésus avait des frères et des sœurs que ce sont forcément des frères et des sœurs de sang. La réalité médicale, la réalité sociologique, les phrases de Jésus, tout ça vous fait dire que il y a quelque chose qui n'est pas si évident que cela dans le tableau. En attendant, nous nous arrêtons avec cette phrase de Jésus parce que ce qu'il a dit à Jean l'apôtre, son disciple bien-aimé, c'était aussi à nous et pour nous qu'il le disait. Voici ta mère. De la même manière que nous avons un père dans le ciel et c'est Dieu, de la même manière nous avons une mère dans le ciel et c'est l'Église qui s'est incarnée en Marie. Nous lui confions notre âme, nous lui confions notre vie et nous lui demandons de pouvoir lui ressembler parce que, écoutez, Marie, à travers sa pureté et sa sainteté, eh bien, quand même, c'est déjà un avant-goût du ciel. Donc écoutez, heureuse famille qui nous valut d'avoir un tel père et une telle mère. Bon dimanche à tout le monde. Eh bien voilà, c'était la capsule L'amour vaincra. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et à vous assurer et de ma prière et de mon amitié.
L'amour vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok et sur le site internet et le réseau Discord en tapant L'amour vaincra.